Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, pour cette nouvelle émission, en partenariat avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'ONCFS, je vous propose de partir loin, très loin, dans les départements d'outre-mer. Notre invité parcourt en long, en large, la Martinique, la Guadeloupe, l'île de la Réunion ou encore Mayotte, pour protéger et gérer la biodiversité de ces départements qui représentent 85% de la biodiversité sur notre territoire et dont une partie des espèces est endémique. Éric Hansen, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous avez fait une escale à Paris. Vous êtes délégué interrégional Outre-mer et vous avez la rude tâche de séjourner de département en département d'Outre-mer. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Est-ce qu'on pourrait commencer peut-être par un panorama des spécificités en fait de ces départements sur le plan de la biodiversité?
Alors comme vous l'avez dit, ces départements donc sont très riches. L'Outre-mer est un peu le joyau en termes de biodiversité, donc au niveau national, avec donc une biodiversité qui est très très différente forcément en fonction des différentes latitudes. Entre Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, c'est deux mondes différents, pour autant deux mondes très riches, avec des menaces qui existent un petit peu partout. Donc l'Outre-mer n'est pas à l'écart. Donc la biodiversité est en situation difficile dans pas mal d'endroits. Donc des espèces sont menacées. Il y a des plans particuliers qui ont été mis en place pour essayer de tout faire pour les sauvegarder, pour les maintenir dans un état de population durable. Donc voilà, vous dire en deux mots la biodiversité pour l'ensemble de l'Outre-mer, je pourrais vous le décliner plutôt par département ou par région.
Alors commençons peut-être par la Guyane, puisque c'est là que votre pôle est installé. La Guyane, qui, vous me le disiez en préparant cette émission, représente la superficie du Portugal, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de travail sur place.
Tout à fait, la Guyane c'est un cinquième de la France, donc c'est vraiment très grand. Ce n'est pas une île, contrairement aux autres parties d'Outre-mer, parce que les gens ont tendance à dire « mais l'Outre-mer c'est... » Ce sont des îles, mais oui, mais pas pour la Guyane. Donc la Guyane, c'est quand même la forêt amazonienne, donc c'est la seule partie européenne de la forêt amazonienne. Donc c'est un département et une région française dans lequel on trouve une biodiversité absolument remarquable à tous les niveaux. Je crois que ce soit vertébrés, invertébrés, animaux terrestres ou animaux marins, c'est un milieu absolument extraordinaire, quoi.
Parce que vous gérez à la fois la partie faune marine, mais également la faune locale, les jaguars notamment. Donc ça fait beaucoup d'espèces à gérer.
Oui, donc il y a beaucoup d'espèces. On a plus d'espèces en Guyane que dans toute l'Europe. On a 750 espèces d'oiseaux, du moins en oiseaux. On a 180 espèces de mammifères. On a une centaine de serpents, une centaine de grenouilles. Enfin, c'est extrêmement riche. Au niveau végétaux, c'est aussi extrêmement riche. On cite souvent le chiffre. On trouve plus d'espèces d'arbres sur un hectare de forêt guyanaise que dans toute l'Europe. Donc ça donne une petite idée. En invertébrés aussi, c'est des mondes qui sont complètement inconnus, sur lesquels on travaille peu. Mais on cite souvent le chiffre de 300 grammes à 3 kilos en biomasse d'insectes à l'hectare en forêt européenne. En Guyane, on est entre 3 et 30 tonnes. Donc voilà, c'est deux mondes complètement différents. Et dans les espèces qui nous concernent, on a des espèces qui sont un peu emblématiques, sur lesquelles l'ONCFS travaille beaucoup, puisque vous dites on a la gestion, mais on peut pas être partout. Donc on a un effectif qui est forcément limité. Donc on s'est spécialisé sur des espèces. Donc on a jeté notre dévolu sur les tortues marines. Donc on est pilote avec le WWF d'un plan national d'action pour la sauvegarde des tortues marines en Guyane. On a des programmes d'études aussi sur la grande faune chassée, puisqu'il y a de la chasse en Guyane, beaucoup de gens chassent, mais on ne connaît pas grand-chose sur la biologie des espèces. Donc mettre en place des mesures de gestion, c'est notre rôle. Pour autant, il faut que ces mesures de gestion soient vraiment en adéquation avec la biologie des espèces. Ça aurait été aberrant de transposer une réglementation européenne ou française à la Guyane. Donc on travaille sur la connaissance des espèces, c'est-à-dire les périodes de reproduction, les dynamiques de population, les densités, etc. Et en fonction de ces éléments, on met en place des programmes d'études. Donc on a également des espèces un peu emblématiques comme le jaguar qui nous posent quelques soucis parce que la Guyane est une démographie galopante avec de plus en plus de gens qui s'installent à l'orée de la forêt, voire dans la forêt. Et puis les jaguars ont trouvé que c'était quand même beaucoup plus facile d'aller manger un chien attaché à une chaîne ou rentrer dans un poulailler, voire manger les veaux ou les vaches ou les poulains ou même des animaux plus gros. Et là, on est obligé d'intervenir et on pose des cages pour pouvoir capturer ces animaux qui sont un peu trop familiers avec l'homme et pour les relâcher très très loin en forêt.
On est un peu dans la même problématique qu'en métropole avec la question du loup ou c'est quand même une gestion différente?
La gestion est différente parce que le loup, on intervient jusqu'à maintenant maintenant, donc c'est une espèce déjà qui se déplace énormément. Le jaguar donc a un territoire qui est fixé. Et donc lorsqu'on capture un jaguar, qu'on le relâche à plusieurs centaines de kilomètres du lieu de capture, on peut espérer qu'il ne va pas revenir tout de suite.
Donc, vous le déplacez en fait, tout simplement.
Voilà, c'est une translocation, donc on déplace l'animal et on le relâche dans une zone où l'homme est peu présent de manière à ce qu'il n'aille pas causer des problèmes chez d'autres personnes. Et donc là, les prochains, pour être plus sûr que nos actions soient efficaces, on va leur poser des balises satellites, des balises Argos, pour voir une fois qu'on les relâche, qu'est-ce qu'ils deviennent, parce que jusqu'à maintenant, on les a relâchés sans trop savoir leur devenir. On n'en entendait plus parler, donc on se contentait du fait que tout allait bien. Maintenant, avec des balises Argos, on saura un peu plus ce qu'ils deviennent.
Sur le plan de la faune marine, vous travaillez également sur le mérou géant.
Oui, tout à fait. Donc, le mérou géant est une des espèces qui a été identifiée par le ministère de l'écologie comme étant une espèce qui était menacée. Donc, c'est une espèce qui est inscrite sur la liste rouge de l'IUCN, donc considérée comme menacée à l'échelle mondiale, en danger critique d'extinction. Donc, c'est une espèce qui est très présente en Guyane. Et ce qui sauve le mérou en Guyane, c'est que l'eau, en fait, est relativement turbide. Et ce qui fait que par rapport aux Antilles ou d'autres endroits, la chasse sous-marine n'est pas possible. Donc du coup, on ne voit pas les mérous et les chasseurs sous-marins ne peuvent pas aller tuer les mérous. Pour autant, il y a beaucoup de pêcheurs qui pêchent des mérous, que ce soit des plaisanciers ou des professionnels. Et donc, on a recruté une personne qui est en une thésarde, qui rentre en troisième année de thèse, pour mieux comprendre le fonctionnement de ce mérou, parce que pour l'instant, on n'en sait rien, on en capture beaucoup. Alors qu'on appelle mérou géant, parce qu'il fait quand même jusqu'à 400 kilos, donc c'est quand même pas rien.
Se trouver en face d'un mérou géant, ça doit être quelque chose, quand même.
Oui, oui, ça fait une très grosse bête. Enfin, le mérou est un animal très placide, hein, donc vraiment, il va venir près de vous par curiosité, mais il n'y a aucun danger. On a aussi du requin-tigre ou d'autres espèces qui se rapprochent de vous, mais des intentions un peu différentes peut-être. Bien qu'on n'ait pas, contrairement à d'autres départements de l'Outre-mer, on n'est pas à déplorer d'attaque en Guyane. Donc le mérou, on va lui poser aussi des balises Argos. On va essayer de savoir comment est-ce qu'il se déplace, est-ce qu'il se reproduit en Guyane. On est en fait dans des questions, les mêmes questions qu'on se posait pour des espèces en Europe au début du siècle. Donc on est avec pas mal de retard.
Tout reste à découvrir en fait en Guyane.
Tout reste à faire, c'est ce qui est extrêmement motivant aussi et passionnant.
Est-ce une image d'Épinal que de se dire qu'en Guyane, il doit y avoir aussi un peu de trafic concernant certaines espèces ?
Non.
C'est une réalité ?
C'est pas du tout une image d'Épinal, c'est une réalité. Le gros problème aujourd'hui, en termes d'atteinte à la biodiversité, reste encore l'orpaillage. L'orpaillage, donc les orpailleurs illégaux, sont présents en Guyane, on en parle assez souvent dans la presse, mais il y a des gens qui arrivent en Guyane avec du matériel pour couper les arbres, et ils vont donc faire des grands trous pour essayer de chercher de l'or. Et le cours actuel de l'or n'arrange pas nos affaires parce qu'il y a de plus en plus d'orpailleurs et les gens prennent de plus en plus de risques parce qu'à la clé, certains font fortune à leur niveau puisqu'il y a beaucoup d'étrangers, pour pas dire essentiellement des étrangers, des Brésiliens ou des Surinamais qui viennent chercher de l'or. Donc là, c'est une vraie atteinte à l'habitat. Après, il y a aussi donc du trafic avec des gens qui viennent en Guyane pour faire des prélèvements à but de collection. Donc il y a des collectionneurs qui veulent chercher telle ou telle espèce de grenouille ou telle espèce de colibri. On a eu un tas d'exemples, je pourrais vous citer des exemples d'une personne qu'on avait interpellée avec les collègues des douanes qui avait une quinzaine de colibris dans son caleçon. Il avait cousu des petites poches dans le caleçon puisque le colibri a un métabolisme très rapide et il faut pouvoir lui donner, l'alimenter, lui donner à manger très régulièrement. Et donc comme ça, il avait ça dans son caleçon avec des pipettes cachées dans ses poches et pendant le trajet, pendant le voyage, sous la couverture, il pouvait continuer à alimenter ses colibris. On a eu des trafiquants aussi, beaucoup d'Allemands, souvent de nationalité allemande, qui venaient chercher donc toutes sortes d'espèces, beaucoup de reptiles, puisque il y a une mode un petit peu en Europe qui est de vider l'eau de l'aquarium et à la place on en fait un terrarium et on y met des serpents, on met des mygales, on met toutes sortes d'espèces. Et donc on a régulièrement interpellé. Le record est une personne qui avait pour plus de 100 000 euros en valeur, dans une seule valise, d'animaux, donc beaucoup d'Androbatinctorius, une petite grenouille à venin, qui fait l'objet, tout récemment d'ailleurs, qui fait l'objet d'un nouveau type de trafic. Ces petites grenouilles ont à l'intérieur donc une glande à venin dans laquelle on trouve des batrachotoxines qui sont plusieurs milliers de fois plus forts que de la cocaïne. Donc c'est extrêmement fort et des laboratoires s'intéressent à ce toxique. Et on a interpellé un Allemand qui travaillait pour un grand laboratoire allemand et qui venait chercher des grenouilles pour ramener à fin d'études, tout ça de manière complètement illégale, bien sûr, puisqu'on n'a pas le droit de sortir la majorité des animaux de Guyane.
Oui, donc vous avez aussi une mission de police très importante, mais j'imagine qu'il faut être très nombreux sur le territoire pour pouvoir tous ces points.
Alors, on a en Guyane donc, une excellente collaboration avec les différents services de police, que ce soit gendarmerie, police nationale, douane. Donc, on est les référents en matière faune sauvage. Donc, dès que un douanier ou un gendarme tombe sur des animaux, il fait appel à nous, puisque la réglementation est assez particulière. Donc la Convention de Washington s'applique pleinement. Et donc ce sont des textes un petit peu compliqués. Et avec leur aide, on arrive à avoir de bons résultats au niveau des contrôles.
On était en Guyane. Je vous propose de passer à l'île de la Réunion, qui est d'ailleurs régulièrement nommée hotspot pour la diversité des espèces. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux de l'île de la Réunion et quelles seraient les espèces invasives qui prennent le pas sur les espèces locales?
Alors donc sur l'île de la Réunion, donc c'est effectivement un hotspot. Il y a énormément d'endémisme au niveau des végétaux. Et en fait, très peu au niveau des vertébrés, puisque lorsque l'homme a posé son pied pour la première fois sur l'île de la Réunion, comme à Maurice, comme ailleurs, il a tendance à s'être nourri sur la faune locale, et donc il est à l'origine de la disparition de la majorité des espèces qui étaient des espèces endémiques à l'époque. Donc la Réunion, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, est très pauvre d'un point de vue des vertébrés. En plus, il faut savoir que l'île de la Réunion, qui est au milieu de l'océan Indien, n'est pas sur une voie de migration des oiseaux. C'est pas comme les Antilles, comme la Guyane ou comme d'autres départements d'outre-mer ou comme Saint-Pierre et Miquelon. C'est un peu un isolat géographique, ce qui fait qu'il y a très peu d'échanges avec d'autres endroits, ce qui fait qu'à la Réunion, on a une vraie problématique d'espèces exotiques envahissantes. On a quelques espèces endémiques, donc on a un plan national d'action sur lequel on intervient pour un lézard, donc un petit lézard qui est endémique à l'île de la Réunion. Après, pour les autres, beaucoup d'espèces sont des espèces qui ont été introduites et on a en fait peu d'espèces endémiques. On a, même au niveau tortue marine, je dirais que c'est pauvre puisqu'on a des zones, des habitats d'alimentation, mais il n'y avait plus pendant très nombreuses années de tortues qui venaient se reproduire sur l'île de la Réunion. Donc oui pour l'endémisme au niveau du monde végétal, mais du monde animal, c'est plutôt pauvre. Voilà.
L'île de la Réunion est souvent évoquée dans les médias lorsqu'il y a des attaques de requins. Alors j'imagine que c'est une question sur laquelle vous intervenez aussi régulièrement.
Tout à fait. Le préfet donc nous réquisitionne comme d'autres services de police donc pour intervenir et bon on pourrait parler longuement de cette problématique requin. Donc il y a toujours eu des requins à la Réunion. Il y a de plus en plus de gens qui font du surf. Il y a des mesures qui sont données à tous les surfeurs, des horaires à respecter. Donc on sait très bien que les squales chassent plutôt le soir ou le matin. Donc on déconseille aux gens d'aller à la tombée de la nuit faire du surf. Malheureusement, certains font fi des recommandations qui leur sont données. Il y a également un gros souci à la Réunion. Donc on est dans un milieu qui est avec un relief important. Et lorsqu'il pleut, il y a un gros ravinement. Et ça crée donc des eaux très turbides. Et le requin bulldog notamment, qui est à l'origine de pas mal d'attaques, pour pas dire le principal concerné par les attaques, adore ces eaux turbides et déclenche des attaques à cette période-là. Donc on demande aux surfeurs de ne pas aller à cette période-là, lorsqu'il pleut, faire du surf. Mais c'est vrai que les gens qui arrivent de métropole, ou d'ailleurs les surfeurs, quand on leur dit, alors qu'ils descendent de l'avion, le surf sur l'épaule, on leur dit de ne pas y aller, et puis ça peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, on leur dit de ne pas y aller, ben ils ont du mal à rester sur la plage. Donc ils y vont et ils prennent des risques, clairement ils prennent des risques. Après, les attaques de requins, à l'échelle planétaire, par rapport à un tas d'autres problèmes, je dirais que c'est peanuts. Et c'est pas grand chose. Moi, je cite souvent, pour revenir à la Guyane, on parle souvent des serpents. On dit, voilà, mais en Guyane, il y a plein de serpents. C'est dangereux. Mais non, on n'a quasiment pas de décès liés aux serpents. Et je prends l'exemple de la métropole. On a 30 à 40 décès par an liés à des piqûres d'hyménoptères, de guêpes ou d'abeilles. Et c'est la principale cause de mortalité, c'est les guêpes et les abeilles. Les requins arrivent en position quasiment à la fin. Donc on en parle beaucoup parce que ça fait peur aux gens et puis on a tous été baignés avec et dans de la mer. Donc ça,
baigné,
ça suscite,
si je puis dire.
ça suscite chez nous quelque chose. Mais bon, il y a un risque certes, mais il y a des gens qui se noient tous les jours et pour autant on n'empêche pas la baignade. Quoi.
Bien sûr, on a bien compris. Donc il y a à la fois la gestion de la biodiversité. Vous avez donc une mission de contrôle vis-à-vis des trafics. J'imagine qu'il y a aussi toute une question de lutte contre la pollution dans tous ces départements d'outre-mer. Quelles sont vos actions dans ce domaine ?
Alors la particularité de l'outre-mer, c'est que en fait il y a eu une volonté de deux établissements publics de se regrouper. Donc il y a l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, l'ONEMA, qui a signé une convention avec l'ONCFS et nous avons créé des services mixtes de police de l'environnement. Donc c'est le cas en Guyane, c'est le cas en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte. Ce qui fait que nous augmentons notre sphère d'intervention et effectivement, maintenant, dans les domaines de compétences de l'ensemble des agents, qu'ils soient ONCFS ou ONEMA, nous intervenons en matière de pollution. donc police de l'eau principalement. Et là, effectivement, c'est un gros dossier. Il y a des endroits pour lesquels il y a beaucoup de retard en termes d'infrastructure. C'est le cas de Mayotte, par exemple. C'est le cas de différents endroits où Mayotte est département depuis pas très longtemps. Donc, il y a un gros problème de clandestinité. Donc, des gens qui vivent dans des conditions extrêmement sommaires et beaucoup de pollution. Et ces pollutions, on intervient parce qu'elles sont extrêmement importantes. Ces pollutions, ces eaux polluées se déversent dans le lagon. Et vous savez que le lagon de Mayotte est le deuxième plus grand lagon du monde fermé, après celui de la Nouvelle-Calédonie, et qui est extrêmement riche. C'est un lagon absolument fabuleux, dans lequel se trouvent des espèces, dont une espèce qui est en voie de disparition, qui malheureusement risque de disparaître, et nos efforts n'aboutiront pas. Donc c'est le dugon.
C'est la vache marine.
Voilà, donc le dugon, l'équivalent en Amérique, c'est le lamantin. Et cette espèce-là est sensible aussi à toute forme de pollution. Donc on intervient aussi en faisant des contrôles, des prélèvements, des eaux usées, des stations d'épuration qui sont pas toujours non plus dans les normes. Donc il y a pas mal de contrôles qui sont faits effectivement sur ce volet pollution. La Guyane et les Antilles ne sont pas épargnées, les Antilles aussi. On a donc 400 habitants au kilomètre carré en Martinique, donc énormément de monde. Et du coup, ça engendre forcément des problématiques déchets et des problématiques pollution de l'eau.
Vous parliez du dugong justement comme étant une espèce justement critique. Il y a beaucoup d'espèces comme ça qui sont en voie de disparition, qui se trouvent justement à proximité de ces départements d'outre-mer.
Non, je dirais que vraiment l'espèce qui est la plus menacée aujourd'hui dans l'outre-mer français reste le dugong. Sur Mayotte, on estime la population à moins de 10 individus. Donc là, c'est vraiment une situation dramatique et on ne sait pas comment intervenir. Le lagon fait 1000 km². On peut pas mettre un agent derrière chaque dugon. Déjà, on a du mal à les suivre. On fait des survols ULM pour pouvoir les suivre lorsqu'ils viennent respirer. Mais c'est compliqué. La zone est immense. Et on a une problématique qui est importante, qui est une problématique filet. Les gens posent des filets et les dugons se noient dans les filets. Donc, on peut pas malheureusement être partout. Il faudrait mettre 150 agents dans le lagon de Mayotte si on voulait être sûr de limiter au maximum les facteurs qui sont les facteurs meurtriers pour le dugon.
Donc, la politique de conservation du dugon, c'est essentiellement lutter contre la pollution et puis informer la population avec les filets.
Sensibiliser les gens, tout à fait. Il y a un gros travail de sensibilisation en expliquant aux gens qu'on peut pas être derrière tout le monde, mais que c'est quand même un patrimoine local qui est important. Il y a du tourisme qui est en train de se développer à Mayotte. Si on veut que les touristes viennent, qui apportent des devises, qui apportent de l'argent, s'ils veulent venir à Mayotte, c'est pour voir des choses. Si on...
Vous mettez en avant l'aspect économique essayer de valoriser le patrimoine.
Quand l'aspect économique reste quand même un levier toujours extrêmement intéressant dans tous les départements d'outre-mer, quand on dit aux gens que financièrement derrière, c'est plus intéressant de voir un animal vivant et qu'il rapporte plus en étant vivant que dans une assiette mangée en fricassé, eh ben c'est gagné.
Mais ça prend du temps,
donc c'est jamais complètement gagné. Les tortues marines ont été très consommées dans pas mal de départements d'outre-mer. La tendance est en train de s'inverser aujourd'hui. Les populations sont globalement à la hausse pour pas mal d'espèces. Pour autant, il faut régulièrement faire des contrôles. On a la chance d'avoir en outre-mer des procureurs et des parquets qui sont extrêmement sensibles à nos problématiques. Ce qui fait que pour les condamnations, je reviens pour les tortues marines, que ce soit à Mayotte ou en Guyane, qui sont les zones où il y a le plus de braconnage. En Guyane, c'est plutôt pour les œufs. À Mayotte, on mange plutôt la viande. Mais les condamnations sont classiquement entre 3 et 6 mois de prison ferme. Donc c'est vraiment dissuasif. Les gens, quand certains de leurs collègues ont passé 6 mois dans une prison, ils hésitent un peu avant de recommencer. Donc on sensibilise, on informe, mais de temps en temps, il faut bien qu'il y ait le coup de bâton pour pouvoir dire aux gens, vous ne pouvez pas aller plus loin.
La tortue marine est sur la liste rouge de
l'UICN ? Oui, tout à fait. Toutes les tortues marines sont à l'annexe 1 de la Convention de Washington. Elles sont toutes considérées comme menacées, certaines plus que d'autres, mais elles sont toutes considérées comme menacées, oui.
Vous avez parlé rapidement de la Martinique, parlons justement un petit peu des Antilles. J'imagine qu'il y a aussi des problématiques propres aux Antilles concernant la gestion de la biodiversité sur place.
Tout à fait. Moi, je dirais que les Antilles, vraiment, c'est la démographie qui est galopante aussi.
Oui, vous parlez de 400 habitants kilomètres carrés pour la Martinique.
Oui, c'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que les espaces, les habitats encore intacts sont très limités. Et on a tout intérêt aujourd'hui de faire porter nos efforts pour la protection des habitats, parce qu'une espèce sans son habitat, elle ne peut pas survivre. Donc, quand on voit des constructions qui se font un petit peu partout, il y a un véritable mitage du milieu. quand vous survolez avant d'atterrir en Martinique, avant que l'avion se pose, vous voyez le mitage du milieu. Il y a des maisons un petit peu partout. Les zones de forêt vraiment intactes sont extrêmement limitées. Donc, le plus gros danger pour moi, c'est ça, c'est les constructions illicites dans des milieux encore un petit peu préservés. Et donc là, il y a des gros efforts à faire dans ce domaine-là. Après, les Antilles, il y a un souci qui émerge depuis pas mal de temps, c'est l'utilisation des pesticides qui ont été utilisés notamment pour la banane, le chlordécone, dont on en a un petit peu parlé au niveau de la presse. Et donc, l'ONCFS a mis en place des études et on s'est aperçu que la plupart des animaux vertébrés, y compris les espèces qui sont chassées, sont porteuses de chlordécone à des taux, dans certains cas, extrêmement importantes. Le préfet a interdit la consommation de certaines espèces. Les poissons, les langoustes en Martinique, par exemple, dans certaines zones, la consommation est interdite. Et on a fait des recommandations par rapport aux espèces qui sont gibiers, comme les tourterelles, demandant aux chasseurs de ne pas manger les abats, puisque c'est dans le foie que se concentrent ces organochlorés et tous ces pesticides. Donc il y a des recommandations, et ces milieux-là qui sont géographiquement très limités, on a des pollutions qui sont récurrentes, puisque le chlordécone, on parle de plusieurs dizaines d'années, voire plus, avant que vraiment l'effet puisse complètement s'estomper.
Ah oui, d'accord, donc effectivement, il va y avoir beaucoup de temps avant que les choses s'amenuisent, avant que les concentrations s'amenuisent. Et il y a une île dont on n'a pas parlé, qui est un peu moins exotique, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon.
C'est très exotique, Saint-Pierre-et-Miquelon.
C'est très exotique.
Pour moi qui suis guyanais, c'est très exotique.
Quelles sont les spécificités de cette île ?
Alors Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est vraiment une île qui gagne à être connue. C'est une archipel qui est juste au sud de Terre-Neuve, donc de Saint-Pierre on voit Terre-Neuve. Donc on est dans un milieu complètement différent. Donc c'est de la toundra arctique, c'est de la forêt boréale. La forêt guyanaise fait 40 à 50 mètres de haut. La canopée est à 40-50 mètres de haut. À Saint-Pierre-et-Miquelon, ça arrive pas à 10 mètres. Donc c'est quelques mètres et c'est la forêt boréale parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc c'est une île qui est relativement plate avec beaucoup de vent, donc un coefficient éolien qui fait que la température peut descendre énormément l'hiver. Mais c'est une île qui est très riche, donc très riche au niveau faunistique. On a beaucoup d'oiseaux de mer. On a des espèces bien connues en Europe comme les pingouins torda, comme les guillemots, comme le macareux moine. On a pour le macareux, on a 10 000 coupes de macareux moine. On a des espèces aussi océaniques comme les pétrels. On a plus de 200 000 couples qui nichent sur certains petits îlots. Donc c'est vraiment des milieux extrêmement riches. On a donc des pygargues à tête blanche, l'aigle, le symbole américain, qui niche sur l'île. Mammifères marins aussi, c'est très riche. On a l'été pas mal de baleines à bosse qui après descendent aux Antilles durant la mauvaise saison. Donc on se partage entre Saint-Pierre-et-Miquelon et les Antilles. S'il y a une espèce qui fait le trait d'union, ce sont les baleines à bosse. Et on a du rorcal aussi, grand rorcal, petit rorcal. On a pas mal de requins, pas mal de delphinidés, donc de dauphins. Et puis en faune terrestre, on a le cerf de Virginie, qui est une espèce qui avait été introduite. On a des espèces de lièvres donc, qui avaient été aussi introduites et qui nous posent quelques soucis parce que ces espèces-là ont tendance à un peu grignoter la végétation. Et donc dans ces milieux fragiles où chaque arbre pour pousser, c'est vraiment compliqué, si elle se fait grignoter et couper par les lièvres ou par les cerfs de Virginie, ça pose un vrai souci. Donc là, on travaille en collaboration avec la Fédération des chasseurs de manière à mettre en place des prélèvements qui sont adaptés pour limiter au maximum ces populations d'animaux qui ont tendance un petit peu à être expansives.
Donc effectivement, rétablir un équilibre avec ces populations invasives, j'imagine que c'est aussi une question qui se pose dans les autres départements d'outre-mer.
Tout à fait, absolument. Donc la problématique d'espèces invasives est une vraie problématique dans tous les milieux insulaires. Dès qu'on s'est aperçu que, à chaque fois qu'on a introduit une espèce, à chaque fois que l'homme a introduit une espèce, ça a quasiment toujours été une catastrophe. C'est pas compliqué, à chaque fois qu'on a voulu nous mêler des écosystèmes, à chaque fois qu'on a intervenu à quelques niveaux trophiques que ce soit, ça a toujours été une catastrophe. Donc dans un milieu insulaire, ça se voit d'autant plus, puisque l'espèce a tendance à prendre la place d'une espèce locale, et lorsqu'elle est endémique, ça veut dire tout simplement la disparition purement et simplement de la planète de l'espèce. Donc on peut pas se permettre ce genre de choses, donc on a mis en place des programmes de lutte. On a d'autres exemples aux Antilles sur l'iguane délica, qui est une espèce endémique des petites Antilles. Et quelqu'un a eu la très mauvaise idée, il y a quelques années en arrière, d'importer de l'iguane, iguana iguana, qui est l'iguane vert d'Amérique du Sud. Et là, on a donc une compétition entre espèces, des hybridations possibles, et on a surtout l'iguane vert qui est plus gros et qui casse la figure à l'iguane délica et qui prend sa place. Donc là, on met en place des programmes de lutte et l'ONCFS est réquisitionné par le préfet pour intervenir, ou on peut intervenir même de manière directe avec des captures de ces espèces invasives. Donc on essaye d'intervenir pour essayer de rétablir donc un certain équilibre. Et avec l'IUCN, donc nous avons sorti un ouvrage qui s'appelle « Les vertébrés terrestres donc introduits en Outre-mer » et l'impact, donc il y a une fiche qui présente les différentes espèces et les endroits où elles posent un problème, puisque les espèces peuvent être invasives dans un endroit donné, mais dans le milieu où elles sont natives, elles posent bien évidemment aucun problème. C'est dès qu'il y a une translocation que les problèmes arrivent.
Donc résumons-nous, une meilleure compréhension des espèces sur place, donc de ces départements d'outre-mer, la préservation de ces espèces, une police pour limiter les trafics et autres, et puis également une police pour essayer de limiter la pollution, et également donc le rétablissement, dans la mesure du possible, d'un équilibre avec de potentielles espèces invasives. Et ai-je oublié quelque chose, Eric Hansen ?
Non, écoutez, je crois que si on arrive à faire tout ça, c'est parfait.
Voilà, donc beaucoup de travail pour vos équipes. Je vous remercie, Eric Hansen, d'être venu nous voir. On vous souhaite bonne route. Je crois que vous repartez à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Justement, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ouais. Je vais mettre mon bonnet et mes gants.
Voilà, et puis nous, on pourra vous suivre sur le site de l'ONCFS où on retrouve les rapports régulièrement édités sur le site internet de l'ONCFS. Merci à vous d'être venu nous voir.
Merci à vous.
Merci.